Vous écoutez France Culture, il est 6h45 et Xavier Martinet gratte son papier avec son stylo. Bonjour. Voilà, c'est l'heure des enjeux internationaux.
Bonjour Jacques Meunier. Personne n'est chez soi, Melania Trump non plus. La première dame américaine hier en tournée dans 4 pays africains. Rare visite de la part de la Maison Blanche pour un continent qui semble délaissé par les États-Unis alors que les puissances du monde se disputent ses faveurs. Y aurait-il une inflexion et pourquoi? On en parle avec vous, Jeffrey Hawkins, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être au téléphone avec nous ce matin. Vous êtes ancien ambassadeur à Bangui, ancien consul à Lagos, professeur à Sciences Po et chercheur associé à l'IRIS. Alors, premier témoignage ou presque un intérêt de la présidence après les propos de Donald Trump sur les shithole countries, bien sûr, et une visite ratée de Rex Tillerson. Donald Trump a un peu cultivé la relation inversement privilégiée que celle que Barack Obama avait entretenue avec les États-Unis, qui ne se distingue clairement pas dans la course aux parts de marché. Alors, est-ce que ces apparences sont trompeuses? Le commerce transcontinental, vous le montrez dans un article pour l'IRIS, États-Unis-Afrique à 55 milliards de dollars est aussi important que celui avec la Chine. Et surtout, les États-Unis restent actifs dans l'aide humanitaire, militaire. James Mattis, hier à Paris, aurait annoncé un engagement supplémentaire pour le G5 Sahel. Et le Congrès aussi tente de mettre en place des outils financiers adaptés, un peu en retard sur les institutions chinoises, par exemple, ce qui n'est pas, dites-vous, le moindre des paradoxes de la politique américaine en Afrique, un mélange d'actions poussées et de visibilité faible. Alors, y aurait-il des intentions cachées à cette visite de Melania Trump ou l'affirmation d'un leadership discret? En tout cas, c'est des motifs diplomatiques et humanitaires officiellement pour lesquels la Première Dame se rend dans ces pays, Ghana, donc Malawi, Kenya et Égypte, apparemment.
Oui, tout à fait. En ce qui concerne la visite de la première dame en Afrique, c'est quand même assez mystérieux. D'un côté, le East Wing de la Maison Blanche, c'est-à-dire le bureau de la première dame, a souligné que c'est elle qui a choisi les pays qu'elle allait visiter et qu'elle allait surtout se concentrer sur son programme Be Best pour promouvoir un soutien aux enfants. Elle est accompagnée par le directeur du USAID, donc de l'assistance américaine, mais seulement au Ghana. Donc, est-ce que c'est la Maison-Blanche, est-ce que c'est le président Trump ou le secrétaire d'État Pompeo qui ont demandé à la première dame de partir en Afrique un peu pour réparer d'éventuels dégâts faits par le président ou autre? Ou est-ce que c'est elle qui veut se démarquer justement de son mari? Et ça, c'est la question qui se pose sur un personnage qui est assez difficile à déchiffrer pour les Américains, c'est-à-dire la première dame. On a l'impression qu'il y a une certaine distance entre les deux. Et là, par exemple, hier, elle était en visite au Ghana. Elle a visité notamment le Cape Coast Castle, donc qui est un ancien haut lieu de la route de l'esclavage à son temps. Assez intéressant comme choix. Certes, ça fait partie du parcours traditionnel touristique au Ghana.
Ça fait penser à ce qu'Obama avait fait à l'époque au Sénégal.
Oui, mais est-ce qu'elle voulait aussi... est-ce qu'il y a une référence aux questions d'ethnie, de race, de immigration qu'on voit avec son mari qui... Les questions se posent. Mais en tout cas... je ne vois pas un grand changement de la politique globale du président Trump seulement parce que sa femme est partie passer 4 jours en Afrique.
Ouais. Et sur la seule liste des pays, là, Ghana, Malawi, Kenya, Égypte, c'est donc des intérêts très divers hein, pour les États-Unis. Il y a un parrainage, on pourrait dire, historique au Ghana et puis plutôt humanitaire. Un soutien militaire et très stratégique en Égypte. Le Kenya, qui est une base arrière des opérations de stabilisation en Somalie, on pourrait dire. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette liste? Elle indique une cohérence?
Je ne vois pas la cohérence. On a dit, d'après les informations de la Maison Blanche, encore une fois, c'est elle qui a choisi, elle voulait faire un peu le tour du continent. Et elle avait un intérêt touristique aussi. Le Ghana, le Kenya, bon, ce sont des endroits pas mal touristiques. Pour le Malawi, aucune idée pourquoi elle a choisi ce petit pays. L'Égypte, certes, c'est très important pour les États-Unis. Et le président Trump a une bonne relation avec Al-Sisi. Donc ça, c'est peut-être pour des raisons plutôt politiques.
Et
mais
alors
aussi touristiques, hein, parce que l'Égypte, les pyramides et autres, c'est très intéressant.
Ouais. Et concernant Donald Trump lui-même, alors il y a quand même une inflexion qu'on aurait pu noter la semaine dernière à l'ONU, où effectivement, en prévision de cette visite et une reprise de contact, il a loué l'Afrique, cet endroit merveilleux, donc un changement de ton très clair. Et puis aussi, il y a eu ce discours quand même un peu menaçant, ou en tout cas plein de questions sur les pays amis qui méritaient l'aide américaine tout de même.
Oui, il paraît qu'il y a un grand débat actuellement entre le département de l'État, USAID, la Maison Blanche, sur comment traduire ces propos du président. C'est-à-dire comment changer notre assistance globale pour suivre cette idée. Et je pense que l'administration, les fonctionnaires américains, ils sont très résistants parce que certainement une telle approche laisserait beaucoup de place aux Chinois, notamment.
Et est-ce qu'il y a un message à faire passer à certains pays africains, sachant que là-dessus, il y a quand même un investissement politique qui est assez fort, et je le disais paradoxal, notamment de la part du Congrès qui, un peu contre Donald Trump à la fin de l'année dernière, a voté une augmentation des crédits, un soutien notamment aux institutions anti-corruption, et donc un soutien sélectif. Est-ce qu'il faudrait entendre les propos de Donald Trump de cette manière, disons, un soutien sélectif financier accru de la part des États-Unis?
Oui, tout à fait. Et on avait l'impression que ces propos visaient notamment la Chine. Et franchement, malgré l'engagement des États-Unis à travers le continent, si on demande aux dirigeants africains de choisir, de faire un choix binaire entre les États-Unis et la Chine, je ne sais pas si ça aurait le fait souhaité.
Ouais, et justement concernant le positionnement des États-Unis dans ce qu'on pourrait appeler la compétition des investissements en Afrique, si il y a notamment tout récemment une annonce qui a été faite de la création d'une institution financière qui s'appelle l'OPIC, en fait, qui serait habilitée désormais à faire des prêts bilatéraux. Est-ce que c'est la volonté? Il y a 60 milliards de dollars d'investissement qui ont été annoncés, c'est exactement le même chiffre que la Chine avait dit au sommet Chine-Afrique. Qu'il y a la volonté d'investissement accru et d'une concurrence avec la Chine sur le continent africain?
Oui, je pense que c'est un peu en réaction, mais sachez d'abord que l'OPIC, ça existe déjà. Et un quart de leur financement vont déjà vers l'Afrique.
Mais pas en bilatéral, oui.
Pas en bilatéral. Et sachez aussi que l'OPIC, c'est pour encourager l'investissement américain sur le continent. Donc, ce sont pas des prêts au gouvernement ni des financements de projets publics. Ce sont des financements des investisseurs américains ou des garanties pour des investisseurs américains. Donc, c'est pas tout à fait la même chose qu'un crédit ou l'assistance classique. Sachez aussi que les 60 milliards de dollars, c'est pour le monde tout entier, c'est pas pour l'Afrique seulement.
Et concernant dernièrement alors une inflexion possible de la politique américaine, il y a quand même deux événements assez notables, notamment un nouveau Assistant Secretary of State pour les affaires africaines, un ancien diplomate qui a été nommé le 23 juillet, celui qui disait « les dinosaures corrompus qui veulent rester président à vie, c'est fini », comme un avertissement. Et il y a eu aussi une lettre des sénateurs à la Maison Blanche sur Djibouti et la Chine. Est-ce qu'il faudrait voir là une volonté de l'establishment politique de reprendre pied, justement, peut-être malgré la Maison-Blanche?
La nomination de Thibault Nage à la place de Assistant Secretary, donc de secrétaire d'État adjoint pour l'Afrique, c'est très important parce que là, ça donne au département de l'État un chef assez gradé pour diriger nos affaires en Afrique de façon continue. Et ça, c'est certainement dû au fait que Pompeo a beaucoup plus de respect pour le département de l'État qu'il dirige que Tillerson. Tillerson voulait couper les budgets de son propre département et il n'a pas nommé donc c'est plus une amélioration de la politique RH du département d'État qu'une volonté quelconque à promouvoir l'Afrique.
Oui, oui, oui.
Donc il y avait beaucoup de places qui étaient vides. Pompeo en train de nommer des officiels. Mais ceci dit, c'est quand même une bonne chose. Quant à la lettre du Congrès sur le Djibouti, ça c'est sur une question sécuritaire très spécifique et ça vise plutôt la Chine que l'Afrique. C'est-à-dire que c'est plus dans le contexte de notre rivalité avec la Chine que dans le contexte d'un engagement supplémentaire vis-à-vis de l'Afrique.
Eh bien, c'est dit et on suivra aussi cette tournée de Melania Trump. Merci beaucoup en tout cas pour aujourd'hui. Jeffrey Hawkins, je rappelle, chercheur associé à l'IRIS, ancien diplomate américain en Afrique.